Père Philippe Lay, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes prêtre passionniste, recteur du sanctuaire marial Notre-Dame-du-Croix dans l'Aude, où vous pratiquez l'érémitisme, c'est-à-dire que l'ermite vit de prière, mais aussi d'accueil.
Et également d'accueil, c'est vrai.
Et accueil, ça veut dire fréquentation des gens et parole.
Oui, quand on regarde au IVe siècle, beaucoup de gens se rendaient au désert pour rencontrer les ermites. Et les ermites leur proposaient non seulement une parole, ils leur proposaient aussi un logement, ils les entretenaient. Et puis, ceux qui venaient questionner les gens au désert, les ermites, étaient des gens qui avaient une foi déjà profonde. Et ils attendaient des ermites un témoignage pour les faire avancer davantage.
Alors votre spécialité, c'est l'accompagnement spirituel.
Oui.
Vous accompagnez pas mal de personnes, de façon ponctuelle ou de façon
Il y a toutes sortes d'accompagnements. Il y a des gens qui ont besoin de rencontrer un prêtre à un moment déterminé de leur existence par rapport à un problème à régler ou à un virage qui s'opère. Et puis il y en a d'autres qui, par la grâce de Dieu, suivent un chemin, une ascension, une véritable ascension. Et alors là, l'accompagnement est durable. On appelait ça autrefois la direction spirituelle.
Et maintenant, on n'est plus soft et on dit accompagnement.
On dit accompagnement, mais c'est...
Or, cet accompagnement spirituel, vous avez un maître qui est Saint Jean. Et Saint Jean, vous nous le déclinez dans un livre qui sort chez Anne Sigier, le livre des 7 secrets ou Saint Jean, par le Père Philippe Lay. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle lecture? Une nouvelle grille?
Il s'agit vraiment d'une nouvelle lecture. C'est à la fois une lectio divina, c'est-à-dire une lecture que l'on goûte, qui sert à construire, à alimenter sa prière, à faire sien la parole de Dieu, à comprendre comment l'Évangile s'incarne dans notre existence personnelle, individuelle. Ça, c'est la lectio divina, goûter la parole et l'adapter vraiment à son cheminement propre. Mais c'est aussi une lecture théologique. C'est-à-dire objective en quelque sorte, la lectio divina aussi a cette dimension objective, mais une lecture théologique bien davantage, elle regarde l'universalité, c'est-à-dire le message que Saint Jean voulait proposer à tous dans l'Église.
Alors vous avez choisi Saint Jean pour qui, pourquoi ?
Par un attrait personnel, un attrait intérieur, et depuis bien des années, ce texte recèle un secret. C'est comme quand on l'ouvre, il m'appelait en tout cas personnellement, comme tous les gens fascinés par Jean ou par un autre auteur biblique. Eh bien, il nous appelait en nous disant « Va plus loin, prends ce livre, médite-le. »
Alors, de Jean, on ne dira rien. On ne sait pas vraiment si c'est le disciple préféré du Christ ou si c'est un autre Jean. Pour l'instant, c'est pas très encore tranché.
La tradition était très tranchée concernant Jean. Jean était à la fois celui qui avait été témoin oculaire des années de prédication du Christ, de sa mort sur la croix. N'oublions pas, il est le disciple bien-aimé. Et puis, il avait vécu plus vieux que tous les autres. Il n'était pas mort martyr. Il serait mort presque centenaire. Et à la fin de sa vie, la tradition nous dit qu'il aurait rédigé les textes que nous avons dans...
Donc l'Évangile et l'Apocalypse.
Et les Épîtres.
Les Épîtres.
Récemment, à peu près depuis les années 80, un nouveau type d'hypothèse a été émis à propos de Jean, en disant peut-être que l'apôtre et l'écrivain sont deux personnages différents. Alors c'est encore à l'état d'hypothèse, c'est toujours intéressant les hypothèses, mais il ne faut pas les considérer non plus comme des preuves, il faut les mettre en réserve.
Alors ce qui nous intéresse quand même, c'est le texte lui-même, et c'est ce texte que vous avez décrypté, analysé, vécu, savouré.
Voilà. C'est ce texte-là, c'est l'exégèse canonique, comme on l'appelle, c'est-à-dire à partir du texte reçu, celui qu'on reçoit dans la foi, dans l'Église, comme le rappellent les évêques et le pape en synode à Rome actuellement. Ce texte, Saint Jean est un auteur très symbolique Et il requiert donc de le lire selon les normes que l'auteur lui-même nous propose.
Et qu'on peut difficilement lire tout seul.
On doit le lire seul. Il faut toujours commencer par là. Il ne faut pas avoir peur d'aborder les textes bibliques. Même si on n'a pas d'introduction, même si on n'a pas une bonne connaissance du milieu historique de l'époque, la parole de Dieu est destinée à tous. Elle était non seulement dans l'esprit du Christ, mais dans l'esprit des évangélistes eux-mêmes, des auteurs inspirés. Elle était destinée à être entendue par des gens qui n'avaient pas de formation particulière, et beaucoup d'entre eux étaient même analphabètes. Ça ne veut pas dire... Elle requiert en tout cas une lecture en église, après cette lecture personnelle, afin d'éviter...
Les contresens ?
Les contresens, le gnosticisme, enfin toute forme d'impasse. Mais c'est dans le prolongement. Trop souvent, et là je refuse qu'on dise, la Bible requiert vraiment une formation préalable avant qu'on puisse l'ouvrir, avant qu'on puisse prendre contact avec elle. J'ai beaucoup aimé à Rome un évêque qui disait « Écoutez, moi, je n'ai pas tellement peur que les pauvres lisent mal la Bible. Les pauvres accueillent avec enthousiasme la parole de Dieu quand on la leur propose. J'ai beaucoup plus peur qu'ils ne la lisent pas du tout. »
Alors, vous proposez de la lire selon votre grille, votre chemin. Et vous nous proposez une lecture des miracles, une progression dans les miracles. Vous en trouvez 7.
Voilà. Le texte de Jean, dans les 12 premiers chapitres, c'est-à-dire dans le récit de la vie publique du Seigneur. Il nous raconte, comme les synoptiques, la vie publique du Seigneur, mais il l'organise très bien, parce que, de mon point de vue, Jean est l'auteur, voyez, l'évangéliste et l'auteur à la fin de sa vie, ne sont qu'une seule et même personne. C'est ce que je pense. Et il a donc eu le temps de bien mûrir ce qu'il avait entendu durant sa jeunesse. Et il connaît la mise par écrit des autres évangélistes. Et il a l'occasion de vouloir apporter quelque chose qui peut manquer encore à cette lecture en Église. Et il a soin de sélectionner 7 miracles parmi tous les miracles que le Seigneur a accomplis, contrairement aux synoptiques. Et lui-même explique dans son évangile, oh là là, si on devait mettre par écrit tout ce que le Seigneur a fait, tous les miracles qu'il a accomplis, le monde entier ne saurait contenir tous les livres qu'on écrirait. C'est donc une invitation à considérer, vous voyez, c'est un clin d'œil en quelque sorte, une invitation à regarder de plus près ces 7 miracles. Il semble nous dire implicitement, pourquoi ai-je choisi 7 miracles ?
Alors, ces 7 miracles, vous les avez organisés donc selon saint Jean.
Exactement. J'ai pris les 7 miracles que Jean mentionne.
Alors, et vous les avez subdivisés en 3 parties.
On peut regrouper, effectivement, lorsqu'on lit attentivement.
Encore une symbolique de 7. Les 7 dons du Saint-Esprit.
Ah oui, bien sûr, c'est ça, surtout essentiellement.
Et 3, c'est la Trinité.
Et 3, c'est la Trinité. Mais moi, je l'ai fait d'une manière plus littéraire. J'ai regardé le contenu des signes, et il se trouve que lorsqu'on peut distinguer 3 cycles, 3 phases dans ces 7 signes. Et on peut les mettre. Il y a un parallélisme qui est très beau et très net entre les deux premiers cycles. Ils commencent tous les deux par un repas.
Cana.
Cana pour le premier cycle.
La multiplication des pains.
Et la multiplication des pains pour le second cycle. Ensuite, il y a une expérience très brève et très intense et très angoissante aussi. Pour le premier signe, ce sera. Le deuxième signe. Ce sera la guérison du fils de l'officier royal. Et le second cycle, eh bien, lui, ce sera la marche sur les eaux. Et c'est pareil, là, les disciples sont dans l'angoisse. C'est un moment très dur, mais très bref. Et ensuite, de nouveau, le parallélisme, c'est que ces cycles, ces deux premiers cycles, s'achèvent par la guérison d'une maladie de longue durée. Dans le premier cycle, c'est un paralysé au bord de la piscine. Et puis dans l'autre, c'est un aveugle de naissance. Vraiment de très longue durée, ces maladies.
Donc il y a un parallélisme, et vous intitulez ces chapitres le premier cycle l'homme et l'autre le disciple. Donc il y a une progression là
aussi.
Il
y a une progression, effectivement. C'est, ils sont parallèles, mais en même temps, on passe d'un étage à l'autre, en quelque sorte. Le premier étage, c'est comment l'homme devient un croyant. Et ça se fait en trois étapes. Il y a l'appel, c'est Cana. Ensuite, il y a la première, les premières mises en place. C'est la guérison du fils de l'officier royal. Où le, comment dire, on voit bien dans le texte la pédagogie divine. Le Seigneur, enfin le Père vient demander au Seigneur, viens guérir mon fils. Et il lui demande de l'accompagner. Et le Seigneur refuse de l'accompagner. Et puis même hausse un peu le ton, si vous ne voyez des signes et des miracles, vous ne croirez jamais. Et il lui, mais il fait le miracle, il accueille totalement, mais en expliquant finalement à cet homme qui vient le trouver, qui était un notable, qui a l'habitude de commander, en lui expliquant, ben voilà, maintenant, il faut que tu apprennes à obéir, il faut que tu apprennes à suivre et non pas à prendre en main les choses. On comprend bien comment le Seigneur introduit dans la foi l'homme qui vient le trouver. Et puis, le dernier signe met bien en place les choses. L'homme devient un croyant à l'issue du troisième signe, un croyant vraiment complet.
Alors, nous verrons la suite la prochaine fois. Merci, Père Philippe Play.